des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, K.R. Kevin Raphaël.
Yeah!
Mon Dieu! T'es-tu dans les maritimes? Il y a un délai, une heure plus tard dans les maritimes?
Yo, moi, je suis fatigué, bro.
Ben oui, t'en as sûrement pas assez.
Bon, yo, c'est quelque chose qui s'en vient dimanche.
Qu'est-ce qui s'en vient dimanche?
Je peux pas le dire.
Ben là, tu plates.
Ben t'écouteras la TV dimanche, même, tu vas me voir.
Ah, je vais te voir à la télé dimanche, à quel poste? Tu peux pas le dire.
Attends, je pense que je peux. Un poste gratuit.
Il y en a deux. Il y en a trois même.
Ben yo, après ça, tu fais ce que tu fais.
Tu fais des affaires à TVA, tu fais des affaires à Télé-Québec, tu fais des affaires à Radio-Canada, c'est trois postes gratuits. OK.
You do you.
Hey, mais qu'est-ce qui n'est pas gratuit, par contre? C'est la marchandise de La Force.
Yo, La Force de Montréal, boutique forcemtl.ca. Je l'ai acheté du gear.
Qu'est-ce qui se vend le mieux, là? Tu m'as dit le marron puis le noir.
C'est ça que je checkais tantôt, mais là, c'est pas mal l'égalité, là.
OK.
Je suis quand même surpris.
Le blanc, il a pogné une drop.
Ben, t'achèterais-tu un chalet du Canadien blanc?
Ben, j'en ai un.
Ben, c'est celui que tu mets souvent?
Non.
Non.
Ouais. C'est ah ça. Ouais, ça s'allie en plus. Moutarde hot dog, puis ouais. Hey, sans restriction, Raphaël Harvey Pinard.
Ah, Raph! On a fait une joke de André Géant.
Comment ça, une joke? Pourquoi une joke?
Ben parce que je disais que Yuraï était grand.
Ah.
Fait que là, le surnom de Yuraï, ben, en tout cas sur le podcast, c'est Yuraï le géant ferré.
C'est un peu drôle. Ouais. C'est plus facile à prononcer. Plus facile à prononcer, Yuraï le géant ferré.
Yuraï, Bruno m'a fait un montage. J'ai oublié de te l'envoyer. Yuraï le géant ferré. Je te l'envoie live.
Tu l'envoies où?
Ben, tes messages textes.
Ah, OK, cool. Merci.
Yuraï le géant ferré.
Hey, je veux rappeler également le lancement de mon livre sur Butch Bouchard mardi le 4 octobre prochain.
Je vais être là.
À la cage au sport de la place Versailles à compter de 17h dans ce formule 5 à 7. Tu vas être là. Ton vice-président chez la Force de Montréal, Manu, va être là aussi. Et j'ai eu la confirmation. Bien évidemment, Pierre Bouchard va être là, l'ancien joueur et analyste. Et bon, une bonne partie de la famille Bouchard également. Mais j'ai eu la confirmation de deux anciens DG du Canadien. Régent Hull et Serge Chavard vont également.
Ah, Serge va être là.
Présent. Ouais, Serge
Damn,
va être là
that's
aussi.
Huge.
Et puis.
J'ai-tu le droit d'y parler?
Ben oui, t'as le droit d'y parler. Entre directeur, gérant d'équipe, vous allez pouvoir vous comprendre. Mais, puis bon, il y a d'autres, il y a des personnalités qui vont être là. Il y a d'autres anciens joueurs du Canadien ou des personnalités sportives qui vont être là également. Mais c'est ouvert au public. Donc, venez en grand nombre. 4 octobre, cage au sport de la place Versailles. Kev, petite annonce pour toi puis moi, mais parce que ça commence cette semaine, mais on est tous les deux de retour. On a été confirmés avec Gage-tu.
Ah oui, oui.
Ben
oui,
on est de retour à Gage-tu. Ça recommence cette semaine à l'antenne de TVA Sport, toujours animé par Stéphane Gonzalez, Gonzo. Toi, t'es là, je crois, ce vendredi. Mm-hmm. Moi, ça va être un petit peu plus tard dans le mois que je vais commencer ma première. On va également avoir la semaine prochaine... On vous l'annonce déjà, mais on va avoir la semaine prochaine un code promo pour vous pour le show de la WWE à la Place Belle. On va avoir une pré-vente, en fait, uniquement pour nos anti-fans. Donc, Kev, tu vas t'occuper de ça parce que moi, je serai pas là. Moi, j'ai
en vacances. C'est-tu le spécial Emilio puis Phenom?
La semaine prochaine, c'est le spécial Emilio et Phenom. Mais vous voulez pas le manquer parce que toi, tu vas pouvoir donner le code promo pour la pré-vente pour la WWE à la Place Belle le 29 décembre.
Je vais mettre une alarme.
C'est Ra qui va être au Québec. Donc, il y a des fortes possibilités qu'on ait évidemment Kevin Owens. Oui, non, c'est le spécial Emilio. C'est une fois par année, le spécial Emilio et Phenom.
Juste une fois par année.
Et juste avant...
J'arrête tellement ça que toute l'affaire de CM Punk arrive avec Emilio et Phenom.
Juste avant qu'on commence, je veux juste... je lisais mes journaux, j'étais un petit peu en retard.
Mes journaux?
Mes journaux de Montréal, en fait.
OK.
Ma mère, là, puis bon, elle m'aide une fois qu'elle les a lus. Et je suis tombé sur un spécial dans le Cahier Week-end il y a quelques semaines, Zest, dans la cuisine avec Kevin Raphaël. Et je veux le partager parce qu'il y a deux choses qui ont attiré mon attention. Premièrement, quand t'as une superbe photo, mais le texte qui vient avec, ça dit que tu animes le Kevin Raphaël Show, une émission sportive présentée à TVA Sports. Je me suis dit, oh shit, c'est un vieux journal de 2018.
2019, t'as pas une chance, là. 2019.
Et ensuite, à la question, pain tranché ou baguette, la réponse de Kev est la suivante. Je préfère la baguette. En fait, j'aime la baguette pour manger les bouts de baguette. Le plus croquant et croustillant. Je vais faire un club de mangeurs de bouts de baguette. Moi, je vous laisse interpréter ça comme vous voulez.
Du fromage et du vin.
That's dirty. Moi, ça m'a fait beaucoup rire.
Mais le pire, c'est vrai que j'adore les bouts de baguette.
Que tu veux partir à un club de mangeux de bouts de baguette.
Dude, c'est le meilleur bout de la baguette.
J'espère juste que tu parlais vraiment de pain.
Ben oui. Je parlais de pain, mais tu sais, je parle de quoi? Un homme de Dieu, man. Moi, je mange mon bout de baguette, là.
On va avoir des billets à faire tirer pour un spectacle. Je vais en parler un petit peu plus tard dans la section Lutte québécoise. Mais pour l'instant, les nouvelles. Bon, ben Kev, la semaine passée, on a fait un topo de tout ce qui s'est passé à la AEW avec Bertrand Hébert. On a eu d'ailleurs beaucoup, beaucoup de bons commentaires sur l'épisode de la semaine dernière. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps. On va faire un petit suivi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine? Premièrement, AEW a enlevé de toute sa publicité pour les prochains événements, incluant le pay-per-view du 19 novembre, CM Punk, les Young Bucks et Kenny Omega. Ça veut dire qu'on parle pas d'une suspension de deux semaines, là.
Ben,
tu comprends?
Ben, ils ont enlevé de l'intro, puis ils disent même pas leur nom.
Ils ont enlevé de l'intro également. Leur nom sont plus du tout mentionnés. Non,
mais parce que l'affaire, là, OK... Parce que là, Tony Khan essaie d'y aller. Tu vas voir, moi, je vais mener ça d'une main de fer, blablabla. Mais t'as juste l'air d'un imbécile. Là. On a tout vu qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tu ne peux pas nommer le nom des gens?
On n'a pas vu ce qui s'est passé.
On a tout entendu qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tu peux pas dire le nom des gens, là? C'est bébé Lala. Ils n'ont pas tué personne. Ils n'ont pas fait des affaires déplorables. Ils se sont battus backstage on your watch. Fait que là, toi, tu fais tout ça parce que toi, t'as eu l'air d'un imbécile. You stupid dumb fuck.
Wow.
Non, mais il m'énerve. Ça m'énerve. Je suis comme, dude, c'est tout de ta faute. Puis c'est comme si on blâmait les lutteurs, genre. Parce que, oui, on blâme les lutteurs.
Le blâme est partagé par plusieurs personnes.
Oui,
là.
On blâme les lutteurs parce que les lutteurs. Ils n'ont pas agi de façon professionnelle. Ils n'ont pas agi de façon professionnelle. Par contre.
Il y a quand même trois personnes là-dedans qui sont aussi des exécutifs de la compagnie.
Oui,
là.
Mais. En même temps, ils ont été, juste le terme anglais, enabled par Tony Khan, puis la façon qu'il gère son vestiaire, puis la façon qu'il traite les gens, puis la façon qu'il cible, la façon qu'il ça. Tu sais, Eddie Kingston, il avait été suspendu, personne ne savait. En tout cas, moi, je trouve que il y a beaucoup, beaucoup de non-sens dans la façon que Tony Khan il gère son vestiaire.
Ben, c'est parce que une suspension, c'est une chose. Mais là, il agit comme... puis là, je ne veux pas utiliser de gros mots, mais il agit comme si c'était Chris Benoit, là. Tu comprends?
C'est vraiment ça.
On les efface de partout. Les gars sont suspendus. Il y a une enquête qui va démontrer qui est coupable de quoi là-dedans. Puis c'est correct qu'il est suspend. Puis c'est correct qu'il y ait une enquête. Mais de là à les effacer de tout... C'est correct. Si tu veux les enlever de la publicité, enlève-les des publicités. Si tu penses qu'ils seront pas là au mois de novembre, publicise pas leur apparition. Ça va. Mais les enlever de l'intro en plus, puis de pas pouvoir nommer son nom.
Sérieusement.
Là, c'est intense un petit peu.
Mais c'est bébé là, puis c'est du Tony Khan. Moi, je suis.
Il y a aussi, on a su aujourd'hui en fait que les ceux qui n'avaient pas de. qui ont essayé de séparer les gens, dont Brandon Cutler et Pat Buck, l'agent, un des agents, aurait été...
Vu backstage, non?
En fait, ils sont plus suspendus, okay, selon ce qu'on sait. Donc, tous ceux qui ont essayé d'empêcher cette bagarre-là, ils sont revenus, parce qu'au départ, ils avaient également été suspendus, mais leur nom a été éclairé là, rapidement dans leur cas. Il y a aussi Being the Elite, qui a arrêté.
Ça
n'existe
plus.
Hey, pour la première fois depuis quoi? Ça fait combien d'années que Being the Elite existe?
10 ans? Non, pas 10 ans, là, mais 5 ans at least. Là.
Au moins 5 ans. Hein? Donc,
ça fait longtemps.
Probablement plus 10 ans, t'es peut-être t'es peut-être plus proche de 10 ans que de 5 ans. Et ben là, cette semaine, ça a été la première fois qu'il n'y a pas eu d'épisode de Being Billy.
Ils ont dit qu'ils suspendaient jusqu'à nouvel ordre.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ils sont en pause. Ils n'ont pas dit que c'était fini. Ils ont dit on est en pause jusqu'à nouvel ordre.
Kenny était supposé être sur le podcast de Swerve Scott.
Puis, il a dit non également. Donc, c'est correct, là. À quelque part, je comprends les gars de ne pas vouloir s'exposer gratuitement puis de dire des choses qui pourraient soit venir nuire à l'enquête, soit pas les aider pour l'enquête. Ouais. Ça, à la limite, je peux comprendre, mais c'est quand même des répercussions de ce qui s'est passé. Il y a également John Moxley, on a su qu'il devait prendre des vacances de 6 semaines.
Ouais.
Et ben finalement, on lui a demandé de revenir, bien évidemment. Donc, il était pas très, très, très content, mais en même temps, bon, il a été un joueur d'équipe. C'est toujours apprécié, mais c'est sûr que quand t'es prêt à t'en aller en vacances 6 semaines, puis on dit ouais, finalement tu peux pas. Non. Chris Jericho aussi était pas censé être là la semaine passée, on l'a fait venir, et Sammy Guevara également qui devait avoir du temps off la semaine dernière, et on lui a évidemment demandé de revenir et de participer au tournoi, et d'ailleurs gagner son match de qualification, son match de tournoi plutôt à Rampage. Donc ça, c'est un peu le topo de ce qui se passe en ce moment. On n'a pas plus de détails sur les actions comme telles. L'enquête est toujours en cours. Il y a aussi des blessures. CM Punk, ben là, on apprend qu'il s'est fait opérer pour un triceps déchiré dans son bras gauche. Il va probablement être absent pendant une période qui pourrait aller jusqu'à 8 mois. T'imagines, 8 mois?
Ben,
donc lui,
ben, lui, ça tombe bien pour lui. Là,
mais lui, t'sais? Ça tombe bien parce que
il ses assurances.
Puis il sera pas sous. T'sais? Il sera pas sous. Ben, je suis pas sûr que.
Mais c'est sûr qu'il est sous assurances. Parce que
ben en fait, je pense que la façon que les contrats sont faits, c'est qu'il va être payé
mais c'est ça, mais il va être payé par les assurances et non par le contrat.
Ah, probablement, ouais. Et il s'est fait ça sur un topé dans son match avec Moxley, mais il a quand même continué le combat. Là, c'est fait au début du combat, mais il a quand même continué tout le long du combat. Donc, lui, 8 mois. Donc, c'est sûr que lui, il revient ou pas, on le sait toujours pas. Mais c'est sûr que.
Mais c'est bon, Nostradakev, man. Est-ce qu'on va revoir CM Punk à AEW?
À AEW? Ben oui, m'a-t-il le demandé tantôt. Réponds pas tout de suite. Mais c'est ça. Donc, c'est la situation.
C'est rendu qu'il fait des cliffhangers.
C'est la situation avec Punk. Malakai Black, de son côté, a annulé un booking indie. Et on a le communiqué disait qu'il ne serait pas présent à cause de problèmes de santé. Donc, est-ce que c'est ça la raison pour laquelle, ou une des raisons pour laquelle il aurait obtenu son release de la AEW? C'est ce qu'on va, j'imagine, savoir dans les prochaines semaines. Quelques chiffres du côté des AEW. Donc, le dernier pay-per-view All Out a fait entre 135 et 142 000 achats. C'est beaucoup moins que le 205 000 de l'an dernier. Mais l'an dernier, c'était le retour de Punk.
Ouais, mais ils ont donné le match de Punk gratuitement à la télé la semaine avant. Ou 2 semaines avant.
Peut-être que...
Mais c'est sûr que ça l'a affecté.
Peut-être que ça l'a affecté. Faut pas oublier aussi que All Out, puis on en a parlé, All Out, la carte, elle était ce qu'elle était. Là.
Oui, mais...
On n'était pas super excité d'All Out avant que la carte arrive. Il y a aussi, à quelque part, ça n'a pas aidé qu'il y avait autant de luttes dans le même week-end. À quel point ça n'a pas aidé, ça, on ne sait pas. Mais il y a beaucoup de facteurs qui ont mené au fait que c'est le moins bon pay-per-view de l'année pour AEW, sauf Forbidden Door. Mais Forbidden Door, c'est un succès parce qu'on s'attendait pas à autant. Mais dans les 4 réguliers, c'est le moins bon nombre d'achats qu'on a eu pour AEW.
Ils ont donné des foot match 2 semaines. Le gros match. J'étais excité pour ce match-là. Ils l'ont donné! Ben, that's on them.
On a vu également cette semaine le retour, et là tu vas être content, le retour du NXT Black.
Yo, j'ai vu la pub tantôt, man. J'ai vu la pub tantôt.
Donc, à la toute fin, c'était le premier anniversaire de. C'est un peu ironique d'ailleurs, le premier anniversaire de NXT 2.0. Ouais. Et à la toute fin, on a montré un graphique avec une vidéo que Shawn Michaels a narraté. Ça se dit pas narraté, hein?
Narré.
Narré? C'est-tu narré?
Oui, c'est narré.
Wow! Wow, quand c'est Kevin qui me reprend, j'ai pas une bonne semaine. Donc, donc Shawn Michaels qui fait la narration de, ce, de cette vidéo, et à la toute fin, on voit le bon vieux NXT en or et en noir. Donc, Triple H, il refait tout ce que...
Triple H est sur un mode vengeance. Je m'excuse, là. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé ça petty dans le bon sens, là.
Ouais.
Tu sais, il a montré le logo, le vieux... Le logo coloré de merde, là.
Ouais.
Puis après ça, boum, il est devenu... Ah, oh, man.
Non, non, on est bien... Moi je suis bien content de voir ça. C'est le NXT qu'on veut. C'est le NXT qu'on a appris à aimer. Donc, ça aura duré un an, l'aventure du NXT 2.0.
Thank God.
On a des nouvelles championnes féminines. Damage Control, Io Sky est à côté à Kai.
Ça nous ramène de pourquoi ils ont perdu pour rien.
Ben, exactement.
Pourquoi ils ont perdu pour rien?
Si t'es pour les faire gagner deux semaines ou trois semaines après, pourquoi tu les as fait perdre dans la finale du tournoi? Juste pour surprendre les gens avec un finish qui fait mal paraître tes arbitres en plus, parce que c'est la mauvaise personne qui s'est fait, pin. Je comprends pas pour vrai ça. Côté booking, je pense qu'on l'a échappé à ce niveau-là. On dirait qu'on a toujours peur, puis ça c'est une philosophie WWE, que quand les gens
s'attendent
à quelque chose, on a peur de le donner. On veut les swerve, mais c'est pas nécessaire.
Ben c'était pas une bonne idée de les swerve avec Aliyah, bro.
Hey.
Au pire, swerve-les avec quelqu'un d'autre, avec Aliyah.
Aliyah,
hey, là. C'est un swerve, là, sur quand il pleut, là.
Elle a fait deux combats dans la dernière semaine, un à SmackDown et le combat de lundi à Raw.
Shit sous shit.
Elle est molle, ça a pas de sens. Non, molle, pas dans son physique, là. Au contraire, elle est molle dans sa façon de lutter. Elle fait des kick-out, là. Puis il n'y a pas d'intensité quand elle lève le bras. Elle lève le bras, là, comme si son bras retombe tout de suite. Il n'y a pas.
Les belly buddies.
C'est une Bailey Buddies, je suis d'accord avec ça. Puis la façon qu'elle a vendu le finish à Dakota Kai lundi.
Hey,
tu peux-tu le faire d'une façon plus... C'était trop. C'est soit qu'elle vend pas ou soit qu'elle vend trop. Donc, j'espère qu'on va pas la revoir de sitôt. Nouveau champion également nord-américain, Solo Sikoa. Le nouveau membre du Bloodline.
Ah, il a battu...
Qui a battu Carmelo Hayes.
Ben, ça veut dire que Carmelo Hayes monte. Carmelo is money! Yo, Melo don't miss, guys! Carmelo, c'est la constance, man. Moi, je vous dis, quand Carmelo Hayes va monter sur le main roster avec son patinet qui parle trop, là, quand Carmelo Hayes, vous allez voir, vous allez dire, ah, yo, Kev told me. Moi, je vous dis, Carmelo Hayes is money.
Moi, ce que j'ai pas... je suis content qu'on donne un titre à Sikoa, puis qu'il va clairement faire NXT et le main roster en même temps.
Mais non, mais là, ça... le Bloodline, tout le monde a un belt.
Tout le monde a... Sauf Sammy.
J'ai lu un tweet, il dit... Yo, Sammy va partir après le 24-7. Ça serait la meilleure photo, man.
Ah oui, j'avoue.
Give it to me.
J'avoue. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est la chose suivante. C'est qu'on fait voter les fans pour savoir qui va affronter Carmelo Hayes.
Ouais.
Les fans votent pour Wesley. Et tu donnes pas le match. Parce que là, Wesley est arrivé et il s'est fait attaquer par Hayes et Trick Williams. Puis ensuite, ben Hayes a fait une promo puis il a défié un peu tout le monde. C'est là que Sikoa est arrivé puis il a eu le match. Fait que j'ai juste... Si t'es pour faire quelque chose où tu fais voter les fans, donne ce que les fans se sont investis. Ils ont pris du temps, ils ont voté. donne-leur ça. Trouve une autre façon d'avoir le match entre Sikoa et Ace.
C'est qui ouvre les lumières dans le studio.
Ben oui, évidemment, vous voyez pas ça. Tout d'un coup, il y a des projecteurs qui sont allumés.
On est à deux doigts que les lumières ferment au complet puis que Tony Khan...
Il y a quelqu'un qui a pris possession de l'ordinateur. J'ai aucun contrôle.
Wow!
Est-ce que ça enregistre encore?
Oui, ça enregistre.
Wow!
Il y a sûrement quelqu'un qui nous écoute en ce moment?
Il peut nous écouter.
Yo, ferme les goddamn lumières!
C'est peut-être Jean-Nicolas... On va dire Jean-Nicolas Lévesque maintenant.
Jean-Nicolas Gagné. Mr. Lévesque?
Oui! C'est peut-être le heel Jean-Nicolas Lévesque.
Yo.
Wow. Bref, désolé, c'est, pour une fois, c'est pas le TDAH à Kevin. Moi aussi, j'ai comme fait, voyons pourquoi les lumières s'allument en studio.
J'ai jamais vu aussi clair dans ce studio-là.
Alors, c'est juste ça. C'est juste ça. Man, on dirait que t'as du. On dirait que t'as un light. un light tone.
Yo, man. Je suis sous moi de Mathieu Joseph, là.
Donc, tout ça pour dire que c'est la seule chose qui m'a un peu dérangé, mais je suis bien content,
light
par contre, qu'on donne.
Qui dit ça?
Ben, c'est, pas, c'est quoi tu dis?
Light
c'est,
skin.
Oh, light skin. C'est ça, je voulais. Ben oui, mais je ne sais pas, moi. Je ne sais pas.
Comment?
Moi, je suis blanc. Je ne sais pas, man. Light skin. Tu vois, je savais qu'il y avait un light quelque chose.
Je suis perdu, groupe. On a perdu Pat.
Je suis comme ton Sami Zayn.
Yo, Sami, là. Moi, je te dis, j'ai besoin du chandail, de la photo de Sami dans le Bloodline qui lève le 1. Bro.
Hey, d'ailleurs, si vous allez sur mon compte YouTube, mon compte Twitter, j'ai partagé un match de, je pense, 2004 entre Pee-Wee, qu'on a reçu à Québec à l'émission, et Sami Zayn en Big Larry, qui était un personnage plus hip-hop. Là, allez voir ça. C'est la genèse du Sami Zayn qu'on voit dans le Bloodline en ce moment. Il y a des nouveaux EVP. Donc, d'un côté, il y a des EVP qui sont suspendus. Et de l'autre côté, il y a des nouveaux EVP à la WWE, dont quelqu'un que d'un sport que tu connais bien, l'ancien président des Raiders de Las Vegas, Dan Ventrell, qui arrive comme EVP au niveau du talent. Donc,
c'est ça la différence, c'est que eux ils engagent pas des lutteurs pour faire la job de EVP. Ils engagent des gens qui ont de l'expérience.
Il va s'occuper du département, évidemment, du directeur du personnel. Il va se rapporter à Paul Levesque. C'est quelqu'un avec qui, justement, Triple H et la WWE avaient travaillé durant SummerSlam l'année dernière, qui était présenté là au Allegiant Stadium, puis avait été bien impressionné de ce qu'il connaissait de la business et du personnel du monde de la lutte et tout ça. Donc, lui, il s'amène. Donc, c'est sûr, ça va un peu désengorger là, les tâches de Triple H. Et il y a également une nouvelle personne en charge de l'équipe légale, un dénommé Edelson, Maurice Edelson, qui lui se rapporte à Stephanie McMahon. J'aime ça qu'on sépare, tu sais, à qui il se rapporte. La semaine passée, on vous parlait de quelqu'un qui se rapportait à Nick Khan. Lui se rapporte à Stephanie et l'autre se rapporte à Paul. On est en train vraiment, le Triple H est en train, et Stephanie sont en train de monter
holy
leur équipe
shit!
À eux.
Zach a fait le PWI!
Ben oui, mais là, OK. Je m'en vais à PWI 500. Je m'en vais sur ma prochaine nouvelle.
No way!
Tu me scoops sur mes propres nouvelles.
Non, mais je regarde plus le PC, comme ça, tu es surpris. Mais ah. Zach l'a fait! Je vais dire félicitations.
Ben oui. PWI 500, vous le savez, c'est la période de l'année où le seul magazine de... c'est bizarre parce que là, on m'a vu dans un écran. Il y a vraiment quelqu'un...
Moi, je pense que quelqu'un nous filme!
Parce que, regarde, il y a des
choses... Il y a quelqu'un
qui
nous niaise dans ce studio-là!
Il y a quelqu'un qui ouvre la télé, c'était marqué Sport Mario Dumont, et non, c'est je suis Pat Laprade.
Il y a quelqu'un qui fait des tests en ce moment.
Ça se peut.
Quelqu'un nous écoute. Si tu nous écoutes, flash les lumières. Ça, c'est that voodoo shit!
Wow!
Voodoo kid mafia!
Donc, je reviens au PWI 500. Top 10, je veux que tu guesses le top 10.
OK. Je pense que je l'ai vu, le top 10.
Ah.
Ben, c'est Roman.
Roman est premier. Oubliez pas, le PWI,
Cette année, le PWI marche pas. Non. À chaque année, il marche pas.
Pourquoi ça marche pas?
Mais dis-moi les dates de quand.
Ça marche, c'est du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
So, explique-moi comment ça se fait que Moxley est même pas dans le top 10.
Parce que Moxley, c'est là qu'il a manqué une grosse période.
Il a manqué 2 mois, 3 mois.
Il a manqué plus. Ben,
il a pas manqué plus que 3 mois.
Ben oui, mais 3 mois sur 12,
ben,
c'est
CM Punk a manqué 9 mois.
Ben non, CM Punk est revenu, il est arrivé en août 2021, puis il est parti bien longtemps après.
Ben, CM Punk a pas eu 8 matchs, là.
CM Punk
a eu combien de matchs à AEW?
Le minimum pour être dans le classement, c'est 10.
Ben, il y a eu 10 matchs probablement.
CM Punk a eu au moins le minimum. Puis oubliez pas, c'est un classement qui est...
Qui fait pas de sens.
Ben oui, c'est
ben,
un
je peux pas croire que Moxley est pas avant CM Punk.
Les critères, c'est victoire, défaite, championnat, tournoi, l'influence, donc la visibilité qu'il a eu, le prestige qu'il a eu, Punk qui a eu beaucoup d'influence à son retour, les habiletés techniques, le succès contre la meilleure variété et la meilleure qualité d'adversaires, et il faut faire au moins 10 matchs ou un total de 6 matchs dans 6 différents mois. CM Punk a eu CM Punk a eu en 2000 durant cette période-là, je vais te dire ça dans quelques instants. CM Punk a eu, non, il y a eu quand même, il y a eu beaucoup de matchs là, CM Punk. Tu vois, il y a eu 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a eu 24 matchs.
Puis Moxley, lui.
Puis il a gagné le championnat aussi là-dedans.
Ben, Moxley a été champion aussi intérimaire.
Il a pas été champion.
Mais c'est la même chose.
Non.
Mais pourquoi non?
Il a pas été champion. Il l'a gagné après le mois de juin 2021. Je pense. Oui. Il l'a gagné.
Okay.
Ou il l'a gagné à la toute fin. Punk a perdu. Okay, Punk s'est blessé le 1er juin. Ben oui, mais ça fait du sens. Pourquoi tu dis ça make no sense?
Fous-moi la paix, man.
Ben non, mais c'est parce que là, je te donne un argument, tu peux pas. Je veux dire, Moxley, il a eu la belle genre 2 semaines dans la période d'évaluation. C'est toujours en lien avec la période d'évaluation, c'est ça que les gens comprennent pas.
D'évaluation fait pas de sens d'abord.
Ben, je veux dire, la période, c'est juillet à juin.
Ça finit en juin, ça sort au mois de septembre.
Ben oui, mais c'est...
Ben, ça sort proche du mois de juin.
Mais ça a toujours été comme ça.
Ça veut pas dire que c'est bon, man.
Et Moxley a eu lui aussi quand même pas mal de matchs, mais il en a perdu beaucoup, contrairement à Punk. Okay. Il a pas une meilleure fiche victoire-défaite, puis il a pas eu le gros titre. Voilà pourquoi. Okada, qui est deuxième, tu vas-tu argumenter là-dessus?
Non.
OK. Punk
mais
est...
Okada, il a pas eu beaucoup de matchs cette année?
Punk est 3. Hangman Page, 4. Hey,
comment
4.
Punk est 3?
Bobby Lashley, 5.
Ça fait du sens, though.
Cody Rhodes, 6. Bryan Danielson, 7. El Hijo del Vikingo, du côté du Mexique, ouais, qui est 8. Big E, qui est 9. Encore là, Big E s'est blessé, mais il a été là pour la majorité de cette période d'évaluation. Et Jonathan Gresham, qui est 10e. Les Québécois, maintenant. On a 15 représentants
ça,
cette
c'est
année.
C'est fou, man.
Et ça, c'est bon parce que, puis bon, je sais pas comment vous, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais bon, c'est moi qui envoie une liste habituellement à chaque année où on me demande d'envoyer une liste à chaque année de Québécois qui méritent sur les Indies, qui méritent de faire partie du PWI 500. L'année passée, on me l'a pas demandé. Il y a eu 4 Québécois. On avait complètement ignoré la scène indie. Puis en 2020, ça a changé ça a changé d'éditeur en chef. Et bon, là, il a fallu que je travaille avec lui. Puis là, j'ai 17 années, là. Je disais, tu peux pas manquer de respect de même à la scène québécoise, là. Là, je vais t'envoyer des noms. Puis essaye de checker ça un peu. Parce que là, on avait eu en 2017 14 personnes. 14 personnes en 2018. 15 en 2019. 9 en 2020. Puis 4 en 2021. Alors là, on revient à des standards plus normaux. Et c'est la première fois depuis 2007, Kev, que le meilleur Québécois classé n'est pas Kevin Owens, Sami Zayn, ou El Generico, là, ou PCO. Et c'est Mike Bailey.
Ah!
Mike Bailey, le Québécois le mieux classé, avec la 30e place.
Ah, oh, je l'aurais aimé plus haut.
Kevin Owens est deuxième à la 36e place. Okay. Sami Zayn, 84. Évidemment, encore là, victoire, défaite et tout ça compte là-dedans. Sami perd beaucoup de combats. Et du côté de la...
Mais tu trouves que ça fait du sens, toi, que victoire, défaite, ça rentre dans le monde de la lutte, là?
Oui, mais c'est toujours ça, le classement. Parce que si tu
mais
y
ça
vas...
veut pas dire que
si
c'est toujours ça, c'est bon.
Non, c'est parce que si tu y vas avec uniquement les habiletés dans le ring, les classements se ressembleraient d'année en année.
Pas l'habilité dans le ring, mais ça peut pas être un facteur aussi important qui fait pencher dans la balance. Il n'y a aucune chance que Sami soit 84.
Mais
ça fait pas de sens.
Mais regarde, c'est ça la structure de ce classement. Il y en a d'autres genres de classements.
Je sais, c'est pour ça que moi je te dis ce classement, ça, il fait pas de sens.
Ben, il fait du sens basé sur les critères qui ont été établis. Mmh, maintenant, tu as le droit de pas être d'accord avec les critères, mais il y a du sens avec les critères qui sont établis. Matt Angel est 230e. PCO 2,45, Marco Estrada 2,75, Jeremy Prophet 3,37, Angelo Parker 3,68.
3,37? Yo, Lutte Academy, guys.
Ouais. Ouais, absolument. Il faisait pas partie de la liste que j'avais envoyée, lui.
Don't be that guy!
J'ai envoyé cette liste-là bien avant que Lutte Academy commence. Là. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai envoyé 10 noms. Il faisait pas partie des 10 que j'ai envoyés, tout simplement. Il est pas non plus dans les, pis ça c'est pas juste moi, mais il était pas non plus dans les 10 lutteurs de l'année, dans les prix de l'année en 2021. Il est dans l'autre 10, Jeremy, tout simplement.
Ça, je te dis,
Angelo Parker, 3,68. Matt Menard, 3,69. Lufisto, la première fois que Lufisto fait le PWF avant d'autres, qui s'ouvre de plus en plus aux femmes également, qui luttent contre des hommes. Faut que les femmes luttent contre des hommes, cependant, là. 390. Thomas Dubois, 4,24. Son partenaire dans TDT, Mathieu Saint-Jacques, 4,28. Et entre les deux, Kevin Blanchard, qui va affronter Minoru Suzuki à la IWS, 4,26.
C'est bloqué dans mon horaire, hein?
Zach Patterson, 4,41 à sa première année.
Big Dog!
Et Ivo Luno, 4,81. Donc, quand même, 15 Québécois et Québécoises, on est très, très fiers d'eux et bien sûr d'elle en parlant de Lufisto.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Passons à lutte québécoise. Lutte québécoise.
On recommence.
Lutte québécoise.
Laissez pas tranquille.
Bon, t'as peut-être pas vu ça passer. Mais il y a une promotion de lutte au Québec, la FML.
Ah, je suis en bif avec eux ou quoi?
Non, pas du tout. Okay. Qui œuvre principalement à Saint-Jean, sur Richelieu, qui font bien à Saint-Jean, ils ont leur public, ils remplissent leur salle. Et il y a quelques semaines, Control Your Narrative.
Ouais.
La promotion qui a envoyé un message sur les réseaux en disant n'importe quelle compagnie indie qui veut travailler avec nous. On est ouvert de travailler avec eux, c'est sûr. Ils ont pas de buzz autour de Control Your Narrative.
Puis ils ont perdu Braun Strowman.
Donc, la FML embarque là-dedans. Bon, moi, je trouvais que c'était un piège, là. Tu veux pas être la compagnie qui va travailler avec eux.
Je suis pas d'accord.
Ça t'amènera rien.
C'est pas vrai. Ça va amener un buzz à ta compagnie, pas à eux.
Mais ils remplissent déjà leur salle. Fait que ça va leur amener un buzz
Peut-être qu'ils vont remplir une peut-être plus grosse salle. C'est quand même des anciens WWE.
Est-ce que vraiment Austin Aries et EC3 vont remplir plus de place?
Ben, pour vrai, peut-être. Pour ils vont voir la photo de EC3, ils vont faire « Ah, je l'ai vu à NXT ou je l'ai vu à WWE. »
Ben, écoute, moi, je te dirais, ça vaut sûrement pas le prix que ces gars-là demandent.
Ça, c'est la prochaine étape, c'est le prix.
Et dans tout ça, il y a eu une annonce, et là, on annonce en trombe, association entre les deux, il va y avoir un show le 7 octobre. Et hier, ben, on a annoncé que le show était annulé.
C'est-tu les patenets?
On connaît pas la raison pour l'instant, mais ce qui m'a un peu fait rire, c'est dans le communiqué, ça dit « L'événement qui devait avoir lieu le 7 octobre à la boîte est annulé pour des raisons hors de notre contrôle. » Et moi, de me dire dans ma tête « OK, faites vous contrôliez pas votre narratif. » Mais c'est vraiment bizarre parce que dans le communiqué, on mentionne aucunement « Control Your Narrative ». Donc, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je vais essayer de me renseigner. Des rumeurs sur le web présentement disent que peut-être que les gars, ou certains des gars, passaient pas les douanes, puis ils ont pas pensé que c'était au Canada, ou en tout cas, c'est peut-être ça, j'ai aucune idée. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais il y a une situation là que je ne connais pas encore, puis c'est très, très, très récent, mais je voulais quand même le mentionner. J'en ai, la semaine dernière, en fait, j'ai été interviewé dans le cadre, au théâtre, aux Écuries, dans le cadre du festival de lutte théâtre nommé Royal Mania, qui se déroule du 6 au 24 septembre. C'est un festival consacré à des pièces de théâtre qui ont la lutte comme sujet principal, je trouve ça vraiment intéressant, ou qui utilisent la lutte comme procédé théâtral. Tu sais qu'on vous dit souvent, la lutte, c'est du théâtre, là. Ben ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Il y a deux pièces, Dick the Third, qui est une version lutte de Richard III de Shakespeare, et aussi Agamemnon in the Ring, qui est la version lutte de la guerre de Troie. Et puis donc on s'est présenté au théâtre aux Écuries qui est situé sur la rue Chabot à Montréal. Et puis ben le le main event, si on peut s'exprimer ici, là, l'événement principal de ce festival, c'est la lecture de la pièce Champion de Maxime Champagne, avec entre autres des lutteurs québécois comme Benjamin Toll et Marc-André Boulanger. Et il y a un personnage là-dedans.
Et toi?
Qui est Pat Laprade, historien de lutte, qui est joué dans la lecture par Louis-David Morand, là, qui est un acteur hyper connu au Québec, là, qui fait plein d'émissions depuis des années, là, dans le temps de 4 et demi, où il jouait le poète Renaud. Ben, c'est cet acteur-là qui va jouer mon rôle. Moi, je l'ai déjà vu, une lecture de cette pièce-là.
Ouais.
Et quand je suis sorti de la pièce, j'ai comme fait, je suis vraiment fatiguant comme ça. Je me fatiguais moi-même avec mes dates. T'sais, vraiment, la pièce est bien, bien, bien écrite. Donc, ça va avoir lieu le 24 septembre. C'est à 11h dans l'avant-midi. Et il y a tout au long d'autres entrevues. Le 17 septembre, il y a une entrevue avec Yann O'Kane, Novakane, un ancien lutteur québécois qui a une collection de magazines. Tu es très prêt là, de voir son garage. Il fait d'ailleurs un livre de lutte.
Okay.
De lutte. Tu devrais voir. Il est en train de faire un livre pour répertorier tous les magazines de lutte de l'histoire. C'est fou. Et il y a Benjamin Toll et Matt Falco également qui vont être là le 23 septembre. Ils ont même une bière brassée par Espace Public Royal Mania. Donc, on va avoir une paire de billets. J'ai une paire de billets à faire tirer pour la représentation de Champion, la lecture de la pièce, le 24 septembre à 11h. C'est un samedi. Donc, si ça vous intéresse, ben, envoyez-moi un message en privé, soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, et le premier à le faire, ben, va se mériter la paire de billets. Et là, ben, justement, il y a un des personnages là-dedans qui est joué par Marc-André Boulanger, alias Frankie de Mobster. Frankie de Mobster, Kev, ben, je sais que tu le connais de nom, entre autres.
Mais il y a une anecdote.
Ben, il y a une anecdote.
Je vais raconter.
Ah oui, OK.
Oui, les gens savent qu'on a déjà enregistré.
Ah, t'es fatiguant! Ah, je l'ai eu quand il fait ça! Je l'ai eu quand il fait ça! Ben oui, on l'a déjà enregistré, l'entrevue! Frankie the Mobster, un lutteur qui lutte depuis plus de 25 ans. Ah, j'haïs ça quand tu fais ça. NCW, IWS, NSPW, un peu partout au Québec. Il y a eu des try-outs pour la WWE. Il a lutté à la PWG. Il a fait quelques combats pour Ring of Honor également. Un vieux de la vieille qui également, puis bon, il a joué dans District 31. Il a joué dans Unité 9, fameuse scène de...
Oh, la scène dégueulasse,
de viol dans Unité 9, c'est lui qui est le méchant là-dedans, ça a marqué le Québec. Alors, on s'en va en entrevue pour la première fois aux Antipodes de la lutte avec Marc-André Boulanger, alias Frankie the Mobster. Alors, on est avec Frankie the Mobster slash Marc-André Boulanger. Ça dépend toujours de quel rôle.
Mon ancien partenaire d'entraînement à la récréathèque de Laval.
Quoi?
Je sais pas si tu t'en rappelles, mais back in the days, OK? Back, ça fait longtemps. Tu t'entraînais.
Oui,
ouais, fait que là, mon cousin Mathieu Brutus, il s'entraînait avec toi. C'est toi qui as tout montré les trucs de gym. C'est toi qui as tout montré.
OK.
Puis, des fois, je venais m'entraîner avec lui. Fait que t'étais là. On était trois dans le gym, le petit gym en haut, là. Il y avait personne.
Oui, absolument. Hey,
Non, mais c'est sûr que tu t'en rappelles pas parce que c'est genre 2000. Entre 2009-2011, dans ce coin-là.
Exactement, c'est dans ce temps-là.
Puis, je t'ai dit...
C'est une période de ma vie qui n'était pas les plus fructueuses, mais il y en a eu plusieurs de cette
époque. C'est l'anecdote, mais on s'entraînait ensemble à la récréathèque de Laval.
Ben, coudon.
Yeah!
Wow! Hey, ce gym-là a été complètement détruit, et c'est ce que j'ai cru entendre, et ça, quelques années après que je l'ai quitté. Mais c'est une bonne chose, parce qu'il y avait de la moisissure, et c'était simplement, ça aurait dû être condamné depuis longtemps, ce bâtiment-là.
C'était insalubre!
C'était dégoûtant. L'odeur, quand je devais faire le ménage dans le vestiaire, c'était répugnant, on en vomit.
Ouais.
C'est la façon la plus weird qu'on a commencé une entrevue, je pense, aux Antipodes.
Non, mais j'y avais jamais dit, puis je te l'avais jamais dit non plus. Je dis, je vais le dire sur le podcast.
Non, vraiment pas. Mon Dieu, mais c'est une belle anecdote. Ouais. C'est magnifique.
Écoute, Marc, je vais t'appeler Marc parce que, bon, je suis habitué de t'appeler Marc.
Oui, s'il vous plaît.
Mais écoute, toi, t'es lutteur. T'es également acteur. Donc, première question que j'aurais pour toi, c'est, bon, tu luttes depuis quoi, 25 ans maintenant?
sensiblement, je veux dire 96 dans le début. Je suis vraiment, je pense que vous me connaissez pour savoir qu'au niveau des dates, ma mémoire est assez défaillante.
Je vais dire 25.
J'ai commencé avec Marc Grizzly en 96.
Okay.
Disons 26 pour que ça fasse un petit peu plus, sinon c'est trop rond. Comme
ok, 26. Parfait, puis t'es à terre depuis combien d'années maintenant?
Le premier rôle que je veux dire digne de mention que j'ai fait dans une production avec mon ami Leonardo Fuica dans un film qui s'appelait La dernière incarnation, que je te suggère fortement de ne pas regarder. Et je m'excuse, Léo pleinement conscient de l'opinion que je peux avoir de la production. Et ça, je veux dire que c'était au début 2000.
OK, 2000, quand même.
Ça a vraiment pas fait de grandes vagues. Il y avait quand même un casting intéressant. Il y avait Gilbert Turk, je sais pas si le monde se rappelle de
oui,
lui,
oui,
là,
oui, je me souviens.
Qui était dans le rôle principal. C'était une comédie de science-fiction. On avait Emmanuel Auger, on avait...
Des comédies de science-fiction, là, habituellement, là.
Au c'est... Québec.
Oui.
Avec un budget quand même assez rachitique, mais l'esprit qui était, c'était, je trouvais ça intéressant par contre qu'il essaye au moins de toucher ces eaux-là, parce que c'est pas un territoire qui est très, très souvent fréquenté au niveau québécois, au niveau du cinéma, puis que quelqu'un essaie, puis qu'il prenne la chance de le faire, et l'esprit était là. Il y avait quelques bons points dans le film, c'est juste qu'il y avait des... Au niveau de l'interprétation, moi, personnellement, je trouvais qu'il y avait des carences, là, mais peu importe, ça, c'est mon opinion personnelle.
Je voulais pas nécessairement avoir une critique de ton premier film, mais merci. Mais où je m'en allais avec ça, c'est... Ça fait 26 ans que t'es lutteur, ça fait une vingtaine d'années que tu joues également. Qu'est-ce qui vient, parce qu'on sait, la lutte, c'est quand même du théâtre, qu'est-ce qui vient le plus naturellement pour toi?
Moi, je te dirais, je dirais que les deux au même niveau, pour moi, c'est jamais ce que j'utiliserais le mot facile. Je te dirais que moi, l'interprétation, quand on me laisse de l'espace pour y aller instinctivement, puis jouer des tripes, que ce soit au niveau de la lutte ou au niveau cinéma, c'est là que je. Comme moi, j'estime que j'ai mes meilleures performances. La problématique avec ça, c'est que souvent, dans le cadre d'un gala de lutte ou dans une production, on peut pas trop y aller instinctivement. Tu me connais assez bien. Le monde du moment d'action, on va savoir que j'ai quand même la fâcheuse habitude de déroger, si tu veux, du cadre d'un gala, puis de partir par moi-même sur des volets
d'enjeux. J'ai jamais vu faire ça dans la lutte. Jamais vu faire ça dans la lutte.
Puis, ça a un bon côté dans le sens où, plus souvent qu'autrement, le monde va en être diverti. Mais c'est une espèce de perte de contrôle, je veux dire, artistique. Mais ça m'arrive aussi sur les plateaux. Mais là, c'est beaucoup plus restreint. J'ai beaucoup moins de marge de manœuvre dans le sens où, OK, Marc-André, c'est pas ça qu'on veut. Mais quand je suis laissé. Les deux me viennent. Les deux sont aussi. C'est un aussi bon exutoire. Puis c'est aussi. Gratifiant au niveau des deux, puis aussi agréable pour moi de pouvoir performer dans les deux, je te dirais. Je veux vraiment pas utiliser le temps que les deux me viennent aussi facile parce que c'est pas le cas. J'essaie de travailler très fort, puis moi, j'essaie toujours d'innover puis de travailler sur moi-même. Donc, je prends jamais les choses à la légère, si on veut.
Souvent, j'écoute des podcasts de lutteurs qui font du acting, puis souvent, ils disent oui. Les gens autour d'eux sont surpris parce que souvent, tu sais, à la lutte, c'est une take. Les actes, puis après oui. Ça, quand ils arrivent sur des plateaux, ils font ça en une take, puis les gens capotent un peu. Est-ce que tu as un peu vécu ce truc-là?
Oui, ça m'est souvent arrivé, parce que moi, je vais... Mais au même niveau que la lutte, par contre, moi, j'arrive préparé avec le frame, si tu veux, de la scène, puis je vais essayer de... Là où c'est arrivé, la chose dont tu mentionnes, c'est quand tu as des scènes de cascade et de combat. Ça, les acteurs vont surpréparer et avec raison, parce qu'ils veulent pas prendre la chance de se blesser quand la production n'a pas sur leurs épaules. Mais moi, ils me disent, tu sais, tu me prendras des répètes pour un fight. Et je dis, là, on va faire ça on the day, là. Les commandants de cascade, maintenant, me connaissent. Ils disent, OK, il n'y a pas trop de marque. Mais les cascadeurs sont pas à l'aise avec ça. Ils vont faire la répète avec le coordonnateur. Moi, quand j'arrive, je dis, c'est quoi qu'on fait? OK, ben, garde, c'est un punch, le punch, ben, peu importe la chorégraphie. Mais c'est pas parfait, on y va. Puis ça me vient facilement. C'est sûr que les réalisateurs, maintenant, j'ai eu l'occasion et le privilège de travailler à quelques reprises avec de façon répétitive avec certains réalisateurs, puis maintenant ils le savent. puis pour eux, c'est un plus, parce que tu perds vraiment beaucoup moins de temps sur les technicalités. Ouais. Des choses, c'est des scènes qui sont à l'accoutumée très longues à tourner, parce que c'est, il y a beaucoup de plans différents, il y a beaucoup d'angles différents. Alors, si tu fais des erreurs, premièrement, le risque de blessure est là. J'ai moi-même blessé un acteur par accident. Par accident, on était les deux responsables lors d'un tournage d'un film québécois. Donc, malheureusement, le nom m'échappe.
Ah, bouh!
Je voudrais vraiment te dire. C'est un simple. J'embarquais par-dessus lui et je devais le frapper, si tu veux. Puis j'avais juste dit, la seule chose qui est vraiment primordiale, c'est pour toi de ne pas relever ton visage. Tu tournes la tête sur le côté à chaque coup. Il n'y a aucun contact au cinéma, mais il faut qu'on filmait relativement proche. Donc, il fallait que la distance soit quand même écourtée, la distance de non-contact, si tu veux. Puis, il y a un certain moment où il s'est levé la tête, puis j'ai tout simplement envoyé un poing sur la gueule, puis ça lui a fait mal. Puis, je me suis morfondé en excuse, mais lui, il était hystérique. C'est pour ça que je ne vais pas le nommer en toute franchise.
Ah, okay.
Il était vraiment hystérique, puis il a essayé de... il voulait me taper sur la gueule, mais j'ai dit, OK, vas-y. Puis, ça l'a un peu déçu, quand il voyait que l'agression ne m'avait pas intimidé. C'est pas loin de là, je suis pas la gamine d'intimidation. J'ai dit vas-y sans que c'est besoin, je suis désolé. Éventuellement, ça a été correct, là, mais c'est comme je te dis, j'ai l'avantage de pouvoir faire ça rapidement, mais des acteurs vont pas nécessairement s'adapter à cette rapidité-là. Puis c'est dans leur méthode aussi de se préparer, c'est une bonne chose aussi à certains niveaux.
J'ai une question pour toi, puis on va retourner un peu plus loin en arrière. Hein. On se connaît depuis 20 ans passés, toi puis moi.
Très longtemps.
Et il y a eu un match. Puis tu vas t'en rappeler, ça c'est certain. Il y a eu un match pour le show de Matt le Grizzly, Midsummer Madness, où Kevin Steen, pis ça écoute ça, Kevin Steen affronte Samoa Joe.
Mm-hmm.
Et c'est gros, là. Pour le Québec à l'époque, là, Samoa Joe, il venait de perdre le titre Ring of Honor. C'est un gros nom des indies. Lutte contre Kevin Steen. Gros combat attendu. Et en fait, Joe est encore champion. C'est pas vrai, Joe est encore champion de Ring of Honor. Kevin était champion IWS puis EWR à Québec. Bref, les deux, techniquement, peuvent pas perdre le combat. Mm. Et là, le booking, c'est que toi, en Frankie the Mobster et Chase Ironside, arrivés, deux gars de la NCW, arrivés pour intervenir dans le combat et ça vire en tag. Donc, Joe et Steen contre toi et Chase. Et la foule est vraiment, mais vraiment pas contente. C'est une foule pro-IWS qui se met à chanter « Don't ruin the match, don't ruin the match ». C'était à ce point-là. T'étais pas encore à IWS à ce moment-là.
Quelques mois après, par la suite.
Exactement. Et tu y as été, j'arrive à ma question, tu y as été quelques mois ou quelques semaines plus tard à IWS et la foule t'a réservé vraiment le même manque de respect qu'au show du Grizzly.
T'as fait un dive
à l'extérieur et t'es a conquis. Et depuis ce temps-là, tu sais, la IWS a été des années à être une des têtes d'affiche. Mm-hmm. Ma question, c'est quoi ton processus dans ce temps-là quand tu vois qu'une foule réagit aussi peu favorablement à ton existence, puis que juste avec un dive, je sais pas si c'était planifié, je sais pas si tu savais que la foule ou tu doutais que la foule était pour répondre ainsi, mais j'ai toujours voulu savoir ça a été quoi ton train of thoughts là-dessus.
Ben, initialement, je vais t'avouer que moi, le dédain et le dégoût, tout simplement, que mon Dieu, dans le temps, on l'appelait le IWS Army, je sais pas si t'en souviens.
Oui, c'est des fans de l'IWS.
Moi, en l'égard, c'était l'espèce de, la NCW dans le temps était vue comme des personnages joués premier degré, très gros, très, pour les eux qui étaient l'antipode, si tu veux, des lutteurs d'IWS qui eux se prenaient très au sérieux, tandis que nous, on jouait beaucoup plus gros. Et moi, j'arrivais là-bas avec un personnage joué de façon vraiment caricaturale à la limite. Puis, ce que les gars faisaient à l'IWS, je veux pas me comparer avec personne, mais des acrobaties et des spots un petit peu plus exagérés ou plus dangereux, je suis capable de les faire. J'ai juste essayé, tout au long de ma carrière, de les préserver, de les faire de façon à ce qu'ils valent la peine et qu'ils veulent dire quelque chose. Quand je suis allé à l'IWS, je me pense, je voulais en donner des astuces de folie, je suis capable d'en faire. Mais je voulais quand même pas trop, parce que j'aimais bien l'espèce de haine viscérale qu'il y avait à mon égard. Ça n'a pas duré. J'aurais aimé ça pour l'entretenir. Mais ultimement, je crois qu'ils ont réalisé le dévouement que j'avais à la lutte, le dévouement que j'avais à mon personnage, la connexion vraiment organique que je réussis à établir avec une foule, peu importe le type de foule que ça puisse être. Puis, il y a un éventuel, comme je dis, following qui s'est créé à ce niveau-là. Est-ce que l'idée de faire un dive, oui, bien sûr, c'est de faire... Bon, vous pensez que je fais juste de la lutte au sol puis des grosses affaires, des coups de poing, des coups de pied, mais je suis capable d'en faire. Je leur ai mis ça en pleine gueule. Bon, c'était plus un « fermez vos gueules, vous pouvez me traiter, vous pouvez pas m'aimer, mais allez pas dire que je suis pas bon ». C'était simplement ça. C'était un peu à ce niveau-là. Vous avez tous les droits de pas aimer le personnage, de pas aimer ce que je vous offre en tant que performer, mais allez pas me dire que j'ai pas de talent parce que je suis capable d'en faire des folies moi aussi, si tu veux.
Tu travailles avec où t'as travaillé ou bon tu bon Zach, c'est comment travailler avec Zach? Est-ce qu'il est aussi désagréable que ça quand il me parle sur Instagram?
Zach Patterson, là, qu'on parle évidemment. Toi tu le connais depuis ouais. Bébé en plus là.
Je connais, j'ai donné le premier toutou de sa vie à Pat Patterson, Zach Patterson, voyons, non, quel lapsus, à Zach Patterson, quand il n'y avait même pas une semaine.
Wow!
Et son toutou s'appelait Frankie, si je ne m'abuse. Wow. Il ou Mobster, peu importe un des deux. Puis, il a toujours été, écoute, il a suivi Bertrand, et pour moi, c'est un de mes pères, si tu veux, dans la lutte, c'est un de mes parrains, c'est lui qui a créé Frankie the Mobster, Bertrand Hébert, le père de Zach. J'ai toujours eu un lien très fort avec lui, même s'il a souvent eu conflits et divergences d'opinion assez prononcées au niveau créatif. Mais je pense que c'est cette passion-là commune qu'on avait, mais si on l'interprétait pas nécessairement de la même façon, qui nous a liés. Et éventuellement, j'ai toujours été là pour son fils. Quand Zach avait des troubles de santé, je suis allé voir l'hôpital. Et je dis pas ça pour avoir une réaction du type de « Oh mon Dieu, quelle bonne personne! » C'est simplement parce que c'est important pour moi. J'avais un lien très fort avec Bertrand. J'avais un lien très fort avec Zach. Je le connais depuis qu'il est tout petit. J'ai toujours voulu être là pour lui maintenant, de le voir performer, de se développer dans le milieu de façon exponentielle, comment il fait dans une aussi brève période de temps depuis ses débuts. J'en suis aussi épanoui qu'il puisse l'être, je pense. J'ai une telle fierté envers lui. Puis, surtout qu'il le fait avec un dévouement total. De voir un jeune, il n'y en a pas beaucoup au Québec il y en a beaucoup qui sont passionnés, mais dévoués sur tous les facettes, que ce soit... Moi, j'ai une pensée plus old school. J'aime qu'un lutteur ait l'air d'un lutteur de façon un petit peu... Au niveau physique, au niveau de l'apparence, je pense que le lutteur devrait franchir le rideau, puis le monde devrait avoir une... C'est une façon de penser un peu plus vieillot, mais j'en déroge pas, qu'un lutteur devrait franchir le rideau, puis le monde devrait faire, mon Dieu, on dirait un super-héros. Puis Zach amène ça sur la table, si tu veux, avec de par son physique, de par son arrogance vraiment exubérante, qui est capable d'afficher et de démontrer lorsqu'il joue son personnage, ou puis ses capacités athlétiques sont tout simplement hors de ce monde là. Donc de voir tout ça, pour moi, je trouve ça d'une majesté incroyable.
Écoute, Marc, on va terminer avec le fait que bon, t'es un des lutteurs professionnels. Il y en a quelques-uns là qui, c'est toi, Marco Estrada, Benjamin Toll, qui flirtait, ou même toi dans ton cas, t'es peut-être celui qui en fait le plus au niveau de la ting et tout ça. T'as des sorties de films qui s'en viennent et de rôles également qu'on peut te voir à la télévision cet automne. Tu peux-tu rapidement là, nous dire là, où on peut te voir là, cet automne là, dans les différents, au petit comme au grand écran?
Au petit écran, dans les délais les plus rapides, il va y avoir la deuxième saison d'Autres Raisonnables.
Parfait.
Qui est une série lourde, mais incroyablement bien réalisé par Jean-Philippe Duval, avec qui j'avais eu l'opportunité de travailler sur Unité 9. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai eu un rôle dans cette série-là. Bien évidemment, je ne suis pas quelqu'un de très sympathique, mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que je voudrais pas divulguer des... J'ai eu la chance de travailler avec Marc-André Gondin et Julie Perrault, deux acteurs et actrices, bien évidemment, phénoménales, dont le talent m'a vraiment immensément aidé. J'ai un film qui est sorti récemment, un film anglophone que j'avais tourné en... qui devrait sortir en salle relativement bientôt, qui s'appelle The Fight Machine. Il a été présenté en première à Fantasia. J'avais eu la chance d'y travailler avec Michael Ironside, le gargantuesque méchant de Total Recall. J'ai Bungalow, qui devrait sortir en 2023, en début 2023, qui est un film québécois de Laurence Côté-Collins, un drame social vraiment lourd avec une brochette d'acteurs incroyables, que ce soit Landry, Geneviève Schmidt, Sylvie Léonard, Guillaume Cyr, et je pourrais continuer, il y a une brochette d'acteurs vraiment incroyable. J'ai le film We Are Zombies, que j'ai eu, qui est en forme, du coup, un film canadien qui devrait sortir au cours de l'année, que j'ai tourné avec Yohan Carl Wissel et Anouk Wissel, qui ont fait Turbo Kid et Summer of 84. C'est des artisans incroyables à la passion monumentale. Puis j'ai, sur un autre ordre d'idée, c'est la pièce de théâtre Champion, écrite par Maxime Champagne.
Oui, exactement. Puis, qu'on a parlé d'ailleurs tantôt. On en a parlé justement parce qu'elle va être diffusée là. Il va y avoir une lecture qui va être faite. Exactement le 24 septembre. Donc on en a parlé tantôt. Puis évidemment, t'en fais
simplement
partie.
Parler parce que toi, t'es quelqu'un qui joue ton personnage là-dedans. Sinon, ça n'aurait pas été d'intérêt. Mais toi, il fallait que tu nourrisses ton ego.
Ben absolument, absolument, absolument.
Tell him.
Je te l'avais dit qu'on se connaissait bien. Puis écoute, je vais en profiter pour t'arrêter là-dessus, mon cher, sur une belle insulte. Mais pour vrai, écoute, c'est vraiment, vraiment le fun de te voir aller, Marc. La Ting prend beaucoup, beaucoup ton temps, mais on peut te voir également dans diverses promotions de lutte à travers la province en Frankie the Mobster. Le retour de Frankie the Mobster après quelques années là, sous le nom de Beast King. Donc, très, très, très content de t'avoir reçu. Bon automne et continue à nous représenter fièrement là, le monde de la lutte dans le milieu cinématographique et télévisuel québécois. Marc-André Boulanger, Frankie the Mobster, merci beaucoup.
Merci, man.
Merci beaucoup. Puis on se revoit bientôt au gym d'un autre salle.
We never know.
Bye-bye, les boys.
Ciao, OK, bye-bye. Quelle entrevue! Oh, je pensais que tu l'avais, Fred! Super entrevue! Super entrevue que je dis! J'ai même laissé un blanc pour que tu le plugues! Toujours aussi sympathique, ce Frankie. Marc, donc, merci d'être passé à l'émission. C'est maintenant le temps d'un nouveau segment, un segment d'une journée. On s'en va au Mexique.
Encore! Wow!
Oh là, je regrette.
C'est meilleur que la moitié des thèmes de AAA.
Et là, et je regrette d'avoir dit pour la seule fois, je veux avoir un segment Mexique. Parce que le segment Mexique, en fait, c'est que ben tu connais un de mes amis, Guillaume Lefrançois, qui couvre le Canadien pour la presse, un grand, grand fan de lutte. Ben, il a été voir de la CMLL à Arena Mexico. Mon espagnol est vraiment mauvais.
Il y a vraiment shit.
Arena Mexico, à Mexico, qui est un des arénas, un des amphithéâtres de lutte les plus célèbres dans le monde. Et il a été voir deux shows, un mardi puis un vendredi. Puis le vendredi, c'est le gros show, là. C'est toujours ça à chaque semaine. Et il m'a fait un petit report que je voulais vous partager. Je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Donc, évidemment, le lutteur le plus over, c'est Sin Cara. Sin Cara, le Sin Cara, le Mystico, là.
Ouais, ouais.
En fait, là, il s'appelle, il est revenu à son ancien nom, Mystico. Donc, c'est vraiment, c'est fou, là. Il y a pas, au début de son combat, ça criait Mystico, là, à tout rompre, là, pendant une bonne partie du combat. Et puis, il y avait beaucoup de combats 3 contre 3, beaucoup de 2 de 3, des 4 contre 4 également, style Survivor Series. Donc, c'est une formule qui est beaucoup utilisée, un peu au Japon et aussi au Mexique. Et puis, ben, évidemment, le dernier survivant à la fin, c'était Mystico, évidemment, pour envoyer les gens heureux à la maison. L'ambiance, elle est vraiment, vraiment super. Ça augmente pour Mystico, mais tous les combats finissent par lever. Un show de 2h15.
Ce qui
est parfait. Et puis, il y avait... L'audio, par contre, il paraît que c'est pas liable. C'est un vieux building, hein, Arena Mexico. C'est un building qui date des années 30 ou 40, donc c'est vraiment un vieux building. Le côté historique du building est là un peu là, les à l'entrée surtout qu'on voit des peintures Blue Demon entre autres, des quelques plaques, mais Guillaume me disait qu'il y avait vraiment là un vibe historique là, old school à l'aréna. Et puis ben à l'extérieur, tu pouvais acheter des masques, des chandails, des figurines, il y a même des ceintures puis des rings. Donc il y a toute une atmosphère autour d'Arena Mexico. Si vous avez la chance d'aller là à Mexico et qu'il y a de la lutte là, allez là les vendredis, ça vaut vraiment vraiment la peine. Alors voilà, un petit review de CMLL au Mexique. Merci.
En peux-tu juste
à l'ami Guillaume Lefrançois. Une dernière fois avant d'aller au Japon.
Hey. Ah. Oh. Ah.
Moi, j'ai texté Fred cet après-midi en disant « T'es-tu quand même trouver un thème pour le Mexique? » Et il me sort, il nous sort
Fred,
ça.
Fred, c'est une légende.
Fred, t'es un génie. Le Japon. Hey, les deux clashent tellement, ça n'a pas de sens.
Je sais, les podcasts préférés, j'ai rendu le thème.
Je voulais qu'on parle de New Japan qui va commencer à avoir un brand en Océanie, donc pour le marché de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Entre autres avec...
On sait pourquoi.
Comment?
Ben parce que Jay White, c'est un god.
Ben, Jay White, c'est un gros, ben c'est un gars de Nouvelle-Zélande.
C'est ça.
Exactement. Il va y avoir également Kenta, Taiji Ishimori, Bad Luck Fale, Jeff Cobb a été annoncé également, donc des shows en Australie, en Nouvelle-Zélande, puis ils vont vraiment partir un brand, et ça va s'appeler Tamashi. Et je vais en parler parce que je trouve ça intéressant du côté business. Que New Japan, on dit souvent AEW, c'est la deuxième promotion d'importance à cause du marché américain. Ouais. Mais quand on regarde ce que New Japan fait,
ben oui.
New Japan est évidemment numéro un au Japon, mais il fait des shows aux États-Unis avec New Japan Strong. Puis en fait, de plus en plus, là, il s'en vient à New York là, pour deux shows. Il fait là, il ouvre en Océanie. Il fait des shows en Angleterre. D'un point de vue global, des fois, je me demande si New Japan n'est pas justement le brand numéro 2. Tu comprends? Et AEW a pas encore atteint ce niveau-là, je crois, au niveau global.
Non, je suis pas d'accord.
Je veux juste dire que il est là, il est présent à New Japan à cause du marché américain. C'est vraiment à cause du marché américain.
Ça, là, parce que New Japan ne font pas autant de shows que AEW.
New Japan fait plus de shows que AEW.
Ils font 52 shows par année minimum?
Ben, regarde juste combien il y a eu de shows pour le G1, Kev. Combien il y en a dans... Je sais, ils font des shows, ils font des house shows, ils font... Ils doivent faire le double des shows qu'AEW font.
OK, mais c'est pas télévisé.
Tous les shows ne sont pas nécessairement télévisés.
C'est
non,
ça.
Non, ça, je suis d'accord.
Mais c'est quand même une grosse partie, là.
Mais je comprends, mais ils font des house shows contrairement à AEW.
Je comprends, mais c'est quand même...
AEW fait, dans le fond, d'avoir deux les shows par semaine.
D'avoir les shows télévisés, c'est quand même...
Et plus les dark, mettons, mais...
Ben, ils plus font, dark,
ils...
plus...
Non, dark est souvent tapé à même le show, mais il y a
oui,
des
mais c'est quand même
spéciaux.
C'est quand même des diffusions mais... de show, là.
Oui, je comprends, mais ils sont pas à la télé partout non plus dans le monde. Je comprends ce que tu dis, je comprends, puis peut-être que j'exagère un petit peu.
Moi, je pense
mais
que
ce que je veux dire, c'est que New Japan est quand même un brand qui est pas juste local. Là.
Non, mais
c'est
pas juste le Japon.
Ils vont explorer d'autres marchés. Ouais. Je trouvais ça important d'en parler parce que pour ceux qui connaissent un peu moins ça, ben sur l'échiquier du monde de la lutte au niveau mondial, New Japan est très, très, très présent.
Non, mais sinon, je perdrais pas mon temps à regarder le Fuji One.
Et
tu sais, j'ai pas de plate, là.
À ce moment, New Japan est la seule autre promotion qui est capable de mettre 40 000 personnes dans un stade, à part WWE. Et AEW n'a pas encore fait ça.
Non, mais il y a deux différences sur ce que tu viens de dire. Tu as dit capable et fait. AEW, demain matin, peut mettre 40 000 à
ben
UK.
Ils l'ont quand même jamais fait.
Oui, je sais, mais c'est pour ça que je te dis, il y a une différence entre capable et fait.
Je suis d'accord avec toi. Bref, je trouve ça important de le mentionner. Moi, c'est le côté business qui m'intéresse énormément de la lutte. Puis, ils vont partir vraiment là, un dojo là-bas, là, avec en Nouvelle-Zélande particulièrement, un peu comme ils ont à Los Angeles ici, en Amérique du Nord. Les coups de cœur. La promo de Kevin Owens.
Ben, Kev est en feu.
Quelle promo! J'en ai eu des frissons en l'écoutant. Ça venait tellement du cœur. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a... Tu sais, vraiment, c'était une promo pour... qui venait vraiment, là, genre de promo, j'imagine qu'il voulait faire depuis longtemps. Ouais. Et là, tout a sorti, tous les sacrifices qu'il a pu faire pour se rendre où ce qui est rendu. Quand est-ce que, tu sais, ben, c'était avec Theory, puis il disait que Theory, dans le fond, lui, il avait eu souvent, tu sais, tout cuit dans la bouche. Quand est-ce que s'il voulait avancer, ben, il fallait qu'il fasse un peu le. Tu sais, ce que les Johnny Gargano qui a mentionné à plusieurs reprises. Mais quelle promo. Puis la semaine dernière aussi, on n'a pas parlé, parce qu'on avait un gros show la semaine passée, mais son match avec Theory la semaine d'avant était écœurant. Et la promo également qu'il a fait était vraiment, vraiment bonne. Il est sur une belle lancée. On lui donne la balle, puis
il est en train de juste... comment dire? Ils sont en train de le builder comme étant le top one babyface, là.
Ben,
je pense qu'il l'est.
Puis je pense qu'il y a une chance de, il y a une chance vraiment de s'établir. On pensait au début qu'il était pour être heel, mais rapidement il est redevenu babyface et c'est magique là.
Top babyface, c'est différent.
C'est magique ce qui se fait en ce moment.
Top babyface.
Ouais, ouais, t'as raison. L'autre Québécois, Sammy avec les Usos.
Sammy, c'est une légende, man.
Moi, quand cette semaine il a dit. Comment est-ce qu'il a dit ça? Mettez vos 1 dans les airs, là.
Put your ones up.
Put your ones up. Hey, je pleurais.
Man, pleurais. C'est un criminel. Il ne devrait pas avoir le droit de me faire rire aussi fort, là.
Puis l'intéressant avec les Usos, elle est merveilleuse.
C'est parfait. Tout est bon, man.
Puis là, on a vu le nouveau Usos arriver. Puis ouais. C'était bon, ça aussi. Pour vrai, là, c'est du bonbon, regardez ça.
Keep
à
it,
chaque semaine.
Keep it simple, stupid.
Ouais, le principe kiss. Absolument. Gargano et Chad Gable, quel bon match.
Ouais, c'est un bon match.
Quel bon match qu'on a eu. Best Friends, Death Triangle également du côté de Dynamite.
Ouais.
Ça a été un excellent match.
J'ai pas aimé.
Ouais, on est dans les coups de cœur. Oh. Change, je suis là.
Come on!
Ce que j'aime, c'est depuis quelques semaines à Raw. On fait un visuel des équipes sportives de la ville où on est. Je trouve ça le fun.
Mais il avait commencé avec Vince aussi.
Ah ouais?
Ouais. Ça fait quand même longtemps qu'ils font ça.
Ah ouais? J'avais jamais remarqué autant.
Une affaire que j'ai remarqué que je trouve super important, ils ont changé les cams qu'ils utilisent pour les trucs backstage. C'est les mêmes cams que NXT.
OK.
C'est les mêmes caméras qu'ils utilisaient pour NXT.
OK. Fait
que c'est pas la même facture visuelle pour tout ce qui est backstage.
Je comprends.
Important.
Je veux mentionner également dans mes coups de cœur un gros shout-out à Eric Cannon, qui est un lutteur indépendant du coin de Minnesota, qui a une à Minneapolis, qui a une promotion de lutte qui s'appelle First Wrestling. Et il a fait un show au Mall of America. Au même endroit où Nitro avait fait son tout premier.
Ah,
pour vrai? Au même moment, à la même place où WCW avait fait son premier Nitro, ouais. Avec Lex Luger, ouais. Qui arrive. Ça a été un succès de ce que j'ai lu. Il y avait Orange Cassidy, Rob Van Dam, Dante Martin, qui vient du coin, ouais. Qui vient de Minneapolis, Ethan Page, Colt Cabana. Donc, ça a été un gros succès. C'était sur Fight TV. Donc, je voulais le mentionner.
Très cool.
Ouais, je voulais le mentionner. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Un autre affaire que j'ai trouvé cool, c'est du côté de Warrior Wrestling, une promotion indépendante à Chicago, qui s'en allait faire un match entre les Briscoes et les Lucha Brothers. Et là, Tony Khan, j'imagine, il y a eu une intervention des AEW et Ring of Honor qui ont comme fait, c'est un match qu'on aimerait ça, nous autres, mettre sur une plus grosse plateforme. Seriez-vous prêts à, tu sais, seriez-vous ouverts à en jaser pour qu'on puisse le présenter, nous, en premier? Parce que c'est un match qui s'est jamais fait, Lucha Brothers et les Briscoes. Et j'ai trouvé qu'il y avait une belle entraide. Warrior Wrestling a accepté, comprenait. Tu sais, je veux dire, c'est une fed indie. Ils n'ont pas de deal télé. Ils ont accepté. AEW leur envoie Eddie Kingston pour compenser. Puis les deux équipes vont être sur le show quand même. Ils lutteront juste pas contre l'autre. Donc, puis on leur donne un petit bonbon en plus en leur envoyant Kingston.
Cool.
Fait que je trouvais ça cool. Je trouvais que c'était une belle entraide. Tu sais, comprendre, bon, je sais, chacun...
Ils ont pas juste dit, ah non, ça marchera
non,
pas.
Non, chacun a sa place, puis chacun a son importance, puis je trouvais ça, c'est rare de l'entraide à ce point-là dans le monde de la lutte, puis je voulais le souligner. Balor et Riddle, j'ai bien aimé cette semaine aussi à Raw. J'ai tout aimé là-dedans. Rollins, Ray qui interviennent, j'ai vraiment, vraiment aimé cette... Rhea Ripley avec Dominic, elle est merveilleuse.
Rhea Ripley, là...
Elle est merveilleuse avec Dominic.
Rhea Ripley, là. Rhea Ripley.
Ouais. T'as-tu d'autres coups
de cœur? Ben, t'as pas parlé depuis 10 minutes. Je t'ai laissé aller, man.
Ben ouais, vas-y, je t'écoute.
Ben, j'ai tout dit. J'ai aimé la promo de Moxley.
Mm-hmm. Oui, effectivement. C'est la première fois que je trippe vraiment sur une promo de Moxley.
J'ai aimé... Ben, peux-tu parler de pourquoi j'ai pas aimé, là?
Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives.
Les gens veulent pas m'entendre parler de ce que j'aime. Les gens veulent pas m'entendre parler de ce que j'aime.
Ben, on veut les deux.
J'ai aimé Ronda Rousey cette semaine. Elle a été très bonne avec sa promo back.
Ça fait deux semaines qu'elle a fait des meilleures choses.
J'ai aimé Solo Sokai aussi cette semaine. Le combat avec Drew McIntyre à la fin, c'est un full bon combat. Oui, j'ai aimé comment ils ont fini le match.
Il s'est bien implanté. Ouais. Non, pour vrai, il y a ça.
OK, Wardlow, là.
Wardlow, mon Dieu.
Useless! Ah, j'ai aimé, je sais que c'est un problème technique qui existait.
C'est
là.
Le fun qu'il ait commencé, mais il ait rushé pour les avertissements, puis là, il dit, finalement, j'ai bien des choses que j'ai aimé.
J'ai aimé le fait qu'on n'a pas vu le match de Omos, puis qu'il s'est revenu avec les gars morts à terre.
Je savais pas dans les avertissements, dans les coups de cœur.
Moi, c'est dans mon coup de cœur.
Écoute, c'est le meilleur match d'Omos à vie. On l'a juste entendu.
Si ils font ça à chaque semaine, là. Je te jure que je vais rester regarder le panneau.
C'était vraiment juste un problème au Canada. Sais, parce que Sportsnet...
Non, aux États-Unis aussi.
Non, ils n'ont pas eu le problème. Ah oui, ils ont eu le problème?
Oui, il y a eu le panneau USA.
Je savais pas.
Oh, oui. C'est de WWE qui a eu un problème.
Omos est meilleur au son qu'au regard. Moi, j'écouterais des matchs d'Omos.
Je te dis, là...
Tu veux juste écouter les commentateurs, c'est
moi,
parfait.
Moi, je regarde le panneau pendant at least une minute. Peut-être deux. Yo, j'étais crampé, mais j'étais comme what?
Hey.
Bon, Wardlow, là.
Ouais.
Monsieur peut pas cut un promo pour sauver sa vie. Si sa vie était sur la ligne, do not cut a promo because you gonna die.
Est-ce qu'il est meilleur que Dominique? Ou pire que Dominique?
Mais Dominique, moi, je l'ai trouvé très bon dans la petite pièce de Malakai Black, là.
Il était correct.
Je l'ai trouvé très bon pour ce que Dominique fait d'habitude. Wardlow, il parle, il est comme... Ce matin, j'ai mangé! Deux toasts. Avec du Nutella! Calme tes nerfs, you dumb fuck, man! Calme tes nerfs!
Ça fait deux fois que tu lis ce terme-là aujourd'hui.
Yeah, je pense que je l'ai utilisé beaucoup cette semaine aussi. Yo, le gars, il... Moi, mettons, quand je crie, OK? Il y a une raison. Le gars écrit, il dit What knows the world?
C'est drôle parce que quand tu dis, moi, quand je ris, il y a une raison. Moi, puis Fred, on s'est regardé, on s'est dit pas sûr qu'il y a toujours une raison.
Oh man, j'haïs la promo. Puis tous les matchs sont pareils. Il y a trois powerbombs. OK, bye, va-t'en, man. Puis pourquoi il part de backstage? L'entrée est plus longue pour rien. Ciao, bye. Bye, bye, bye. Bye. NSYNC. NSYNC that shit. OK?
Bye, bye, bye.
Bye, bye, bye. Bye. Va-t'en, aux douches. Puis l'autre, là, il y a un peu d'affaires à AEW, j'ai pas aimé. Continue, vas-y.
Je veux te parler de Dominique Mysterio. Je veux dire, je veux pas trop le ramasser parce que c'est, je veux dire, il y a peut-être une belle carrière devant lui, mais pour l'instant, je sais pas, je le trouve, mais. Il est pas, il est heel, mais il est pas arrogant. Il a pas un regard agressif. Il a pas d'intensité dans le visage.
Donne ton patinet, là.
J'aime pas que Real protège.
Mais Real va te protéger, c'est sûr, jusqu'à la fin des temps.
Mais je trouve pas ça l'aide. Je comprends où on va avec ça, mais je trouve que ça l'aide pas à s'établir. À l'établir, lui, je veux dire, Dominique. Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, Real va snap, puis il protégera plus. Mais en attendant, je trouve que ça l'aide pas à Dominique à s'établir. Puis j'ai pas aimé le coup de chaise de Ripley sur Edge. C'était lame, c'était mou. Si t'es pour lui donner un coup de chaise, donne un coup de chaise au patinet.
OK.
Devin Nicholson, fucking piece of shit.
Oh!
Qui, une des personnes que je...
Que t'adores.
Ah, que, écoute, ça n'a aucun sens. Qui a été accusé d'assaut sur une femme.
Idiot.
Fait que...
Idiot!
De un, on sympathise beaucoup avec la victime. De deux, ça fait juste vous démontrer que c'est une mauvaise personne, puis je l'ai souvent dit. Puis il y a un million d'exemples que j'ai vus dans le monde de la lutte où il a été comme ça. Donc je voulais mentionner des avertissements. Là.
Lâche!
T'as-tu d'autres choses?
Oui, j'en avais d'autres. Là.
Ben, vas-y, les gens veulent t'entendre chialer sur la lutte. Là,
you, Dolph Ziggler?
Je sais pas, il est où Dolph Ziggler?
C'était quoi le angle de Dolph Ziggler avec Theory pendant plusieurs semaines?
Mais ça, c'était-tu sous Vince ou sous Triple H? Parce que
ça a continué la semaine après.
Oui, mais en même temps.
C'était un bon match, Garcia, puis Brian Danielson, j'ai oublié de le dire. Okay. Puis l'intro de Garcia, c'était nice aussi.
Finalement, t'avais bien des coups de cœur. serait le fun qu'à un moment donné, tu
quand tu fais un pre-tape, là, quand tu fais un pre-tape, là, OK, peux-tu t'assurer de mettre la vidéo dans le bon sens? Chris Jericho, il dit, je vais affronter Daniel Bryan, Bryan Danielson, nanana. Ils ont mis ça avant le match. Ils ont vendu le finish du match. Je l'ai reculé deux fois, parce que j'ai dit, non, sois pas imbécile à ce point-là.
J'avoue, ça m'avait pas marqué.
OK, après ça, Bobby Fish, là.
Ouais.
So, pendant que t'étais dans la compagnie, y a rien qui se passait. Maintenant que t'étais hors de la compagnie, tu talk shit à tout le monde qui peut t'écouter. Lâche. Mais MJF.
Oui.
J'ai pas aimé qu'il pender au crowd au début de la promo.
Qu'est-ce que tu veux dire?
J'ai pas aimé qu'il rentre pis qu'il soit comme yo, j'aime les gens, j'aime Buffalo.
Ben oui,
j'aime... Non, parce que.
Il savait qu'il était pour avoir un baby face pop.
Je sais, mais t'as fini All Out en étant le supposé heel contre le baby face. Il rentre en baby face. J'ai trouvé que.
Ben, c'est le diable. Le diable va toujours trouver une façon. Son personnage, c'est d'être le diable. Il va toujours trouver une façon de se tourner contre la foule ou de se tourner contre quelqu'un. Donc, c'est dans. Moi, je le comprends même dans son personnage.
Je suis capable de vivre avec ça. Okay. J'ai adoré qu'ils n'ont pas laissé le Pat. Mais c'est quoi son nom? Listen!
Max Caster qui a fait son rap.
J'ai adoré qu'ils ont coupé Max Caster.
C'est sûr qu'on est dans les avertissements.
M'en fous. J'ai adoré qu'ils l'ont coupé. Fine. Je n'ai pas dû vivre avec ça. OK? J'ai adoré ça.
À
ça
New
bon.
York, ça va être débile à Grand Slam.
Yo,
là.
Yo. Acclaim. J'ai adoré Swerve Scott. Keith Lee était où? Il était au Kittering? Keith Lee mangeait des patates?
Ben, c'est pas impossible. T'as dit ça de même.
J'ai aimé le match trio. On ne l'a pas mentionné, mais le match trio était
mais
super.
C'est sûr, tu voulais passer aux avertissements?
Sur Jungle Boy,
là, c'est moi qui crie, me fait crier à ce temps. Je suis rendu Wardlow.
Sur Jungle Boy, là.
Jack Perry.
Jungle Boy, Jack Perry, là.
Mm.
So, après tout ça, le seul temps qu'ils ont donné au petit patinet, c'est une promo de une minute, bro. Mm.
Nostradakev.
So, Sheamus, là, il était goddamn over à Glasgow. Babyface Sheamus. Il est allé prendre un pin! Et ils sont allés prendre un pin! Le gars a pris deux pins en...
Ouais, mais il était babyface parce que c'était... Parce que
non,
c'était
man,
son,
il est,
son,
il est
son
sorti
crowd,
babyface
là.
À SmackDown aussi.
Nostradakev, Logan Paul qui a dit qu'il voulait affronter Roman Reigns, est-ce que tu penses que ça se fait d'ici à WrestleMania ou à WrestleMania? Mais un des deux.
Même pas dans le rêve le plus cochon de l'histoire.
OK. OK. C'était
T'es-tu
quoi?
Malade?
C'était quoi le Nostradakev que tu m'as demandé? Est-ce que CM Punk revient à AEW?
Je pense que non.
Oh.
Je pense que non.
OK.
Il peut pas revenir. Parce qu'il peut pas retourner dans ce locker room-là.
Je comprends.
Fait que je pense pas qu'il peut revenir.
Et je veux te donner un petit update de tes Nostradakev précédents. Donc, Fred, prépare ton buzzer ou tes cloches. Prochaine championne féminine AEW, t'as dit c'était Serena Deeb. C'était. Mais ça n'a pas été Serena Deeb. Prochain n'a pas signé avec AEW, t'avais dit Angelico. Ben, ça a été Bobby Fish. T'as dit que le règne de
Angelico.
Liv Morgan.
Ah ouais.
T'as dit que le règne.
Non, mais
de...
ça, là, est tough, man. Comment tu veux que je sache, man, que quand
hey, c'est toi qui as une boule de question.
Yeah, mais cette question-là était shit.
Règne de Liv Morgan. Hey, si tu l'avais eu, t'aurais été vraiment content, puis tu te serais vanté. Règne de Liv Morgan, t'avais dit moins de deux mois. Ben, ça fait déjà plus de deux mois.
Ouais, puis c'est triste.
Il y avait aussi, je les ai ici. T'avais dit que celui qui gagnerait, l'équipe qui gagnerait le Second Chance Four Way, c'était Natty et Tamina. Ben, ça a été ça. T'avais dit que les gagnants de la finale, ce serait Damage Control. Ben, on sait qu'ils ont pas gagné la finale. T'avais dit qu'Elite battrait United Empire. Ils ont battu United Empire. Et t'avais dit Dark Order battrait Best Friends. Et ils ont battu Best Friends. Donc, en tout, à date, avec les résultats qu'on a, t'en as 16 de bons et 26 de pas.
Ben, c'est quand même bon.
16, donc 16 sur 42, c'est-à-dire une moyenne respectable. Je vais te donner un 38%.
Hey, man, 38, moi, je vise 20%.
Ben, 38, c'est bon.
C'est 20% le power play. Yeah, c'est vraiment bon, 38.
Quiz de Double J.
Bah, 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 bah. Comment Fred me skip de même?
Quel est votre... Ben évidemment, quiz de Double J, notre ami Jérôme Jacques. Quel est votre type de match préféré entre un match de cage et un match d'échelle?
un match d'échelle, parce qu'un match, match de cage, ça limite un peu les lutteurs, surtout quand ils sont pas bons.
Moi aussi, quel est le meilleur thème d'entrée entre Kingdom de Cody Rhodes ou All About the Boom de Adam Cole? Moi, c'est Kingdom.
C'est Kingdom, mais ça en est une bonne, ça, Jérôme.
Et quel lutteur risque le plus d'aller à AEW d'ici deux ans entre Chris Jericho ou MJF?
Qui risque de rester?
Non, qui risque d'aller à AEW d'ici deux ans. Est-ce que Jericho y retourne ou MJF s'en va là-bas? Entre les deux, qui risque le plus d'y aller?
Mais ils sont déjà à AEW.
WWE.
T'as dit AEW 8 fois?
Ça se peut. Quel lutteur risque le plus d'aller à WWE d'ici deux ans?
MJF.
Ben MJF, moi aussi. Jericho, il arrête. Honnêtement, ces temps-ci, il parle beaucoup, beaucoup contre WWE. Pas sûr que... C'est plus Vince qui est là, c'est Triple H. Moi, je vote sur MJF.
Puis MJF, là, il va passer à la caisse. Ne passez pas à la prison, là.
Eh bien, ça fait le tour du podcast de cette semaine. Pour vrai, n'oubliez pas d'aller sans restriction à Raphaël Harvey Pinard. Mettez à votre agenda la date du lancement de livre de Butch Bouchard, 4 octobre. Allez acheter de la marchandise, de la force. Au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!
T'as la fatigue, hein?